RCF.
Politiquement vôtre, le rendez-vous politique en Lorraine, Roger Quaizel.
Bonjour, bienvenue dans Politiquement vôtre, l'émission politique de RCF Lorraine réalisée par Cédric Rouillon ce soir. Et nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Yves Wendling, consul du Luxembourg, pour le Grand Est.
Oui, pour le Grand Est, hors Alsace.
On y reviendra tout à l'heure. À mes côtés, Jocelyn Lapart.
Salutations, Roger.
Bonjour Jocelyn, Cédric Rouillon qui interviendra aussi en tant que de besoin dans l'émission, et Arlette Perjean qui est par Zoom.
Bonjour Roger, bonjour à tous.
Très loin d'ici, très loin d'ici. Ça va Arlette?
Ça va très bien, merci.
Voilà, vous avez le beau temps là, du côté de la...
Oui, j'ai un temps merveilleux.
Enfin, voilà, nous aussi.
Comme vous l'aimez Roger.
Ça va. Yves Wendling, on va commencer, on va évoquer avec vous l'actualité, les sujets ne manquent pas. Et comme chaque semaine, on va commencer l'émission par le portrait de notre invité, donc vous. Portrait préparé par Arlette Perjean.
Yves Wendling, vous êtes né le 28 septembre 1971 à Dudelange, au Luxembourg, d'une maman purement luxembourgeoise et d'un père originaire d'Audincich. On comprend dès lors votre attachement personnel au Grand-Duché. Et les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui prennent alors tout leur sens, mais nous y reviendrons. Vous faites vos études de médecine à Nancy, où vous obtenez vos diplômes avec une spécialité, la santé de l'enfant et de l'adolescent. Parallèlement à ça, vous étudiez le droit public et les sciences politiques. En 2003, vous vous installez à Famec, où vous exercez d'ailleurs toujours en tant que médecin généraliste. Mais c'est à Metz que vous résidez, vos activités y sont multiples. En effet, si comme on le sait, l'exercice de la médecine est très chronophage, il semblerait que ça ne suffise pas à l'homme d'action que vous êtes. C'est d'abord dans le monde associatif que vous allez vous investir sans compter. Vous y occupez aujourd'hui des fonctions d'importance, et pour n'en citer que quelques-unes, je rappellerai que vous êtes président de l'Association des donneurs de sang de l'agglomération Messine, président départemental de la prévention routière et vice-président de la Fondation Bompard à Novéan, qui accueille des personnes handicapées et des personnes âgées. Alors on peut se demander, y a-t-il encore de la place pour la politique dans tout cela? Eh bien oui, car dès l'âge de 20 ans, vous militiez au RPR, et puis... Vous avez continué, et puis il y a eu votre rencontre avec Denis Jacquat, et vous reconnaissez avoir appris beaucoup à ses côtés. C'est en 2014 que vous entrez véritablement sur la scène politique, avec votre élection au conseil municipal de Metz et à Metz Métropole, où vous siégerez dans l'opposition jusqu'en 2019 précisément, date à laquelle vous donnez votre démission. Mais pour quelle raison diantre donne-t-on sa démission à quelques mois de nouvelles élections municipales? Eh bien, tout simplement, afin de pouvoir postuler comme consul du Luxembourg, rien que cela, en succédant à Jean-Claude Schwartz, dont vous dites qu'il vous a mis le pied à l'étrier. Il a fallu faire un choix, car cette charge de consul est incompatible avec un engagement politique personnel. Assermenté depuis le 20 novembre 2020, vous êtes donc le nouveau consul du Luxembourg pour le Grand Est. Je précise, hors Alsace, et ce pour une durée de 5 ans. Ainsi, avec votre allure phlegmatique et la malice au coin de l'œil, comme votre humour omniprésent, vous tracez votre route en politique tranquillement, en toute discrétion et en toute fidélité aussi à vos valeurs de droite. Je ne doute pas un seul instant que nos auditeurs sont comme nous impatients de vous entendre vous exprimer ce soir. Et puisque vous êtes à notre micro pour la première fois, Yves Wendling, Monsieur le Consul, nous vous souhaitons la bienvenue dans Politiquement Vôtre.
Yves Wendling, Arlette a dit dans votre portrait que vous étiez consul du Luxembourg pour le Grand Est et hors Alsace.
Oui, ce n'est pas une particularité alsacienne comme souvent on le pense à Metz. C'est parce qu'à Strasbourg, il y a un consul général du Luxembourg qui est donc rattaché aux institutions européennes et qui gère l'Alsace à ce moment-là et donc c'est le reste du territoire du Grand Est.
On va commencer par votre parcours et on abordera un certain nombre de questions tout au long de l'émission, et la première question vous est posée par Jocelyn Lapart.
La politique vous a attiré très jeune, à 20 ans. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement de jeunesse?
C'est un engagement de jeunesse quand on grandit comme moi dans une famille où on parle beaucoup de politique à table. Pratiquement tout le monde a un engagement politique, et donc on baigne là-dedans. Et évidemment, à 20 ans, on se pose la question de son propre engagement. Et puis, il y a eu à l'époque, pourquoi le RPR? Parce qu'il y a eu cette rencontre avec Philippe Séguin. J'ai toujours été séguiniste, je le suis toujours, et qui répondait tout à fait aux attentes que j'avais de la part d'un homme politique, d'un homme d'État. Et donc je me suis naturellement engagé dans ce parti politique qui après, dans ces partis qui ont succédé.
Cédric Rouillon.
Oui, bonsoir, M. Wendling. On vous associe souvent à la droite sociale. Alors, avec la révolution du macronisme, est-ce qu'aujourd'hui, la droite sociale a encore du sens et qu'est-ce qu'elle veut dire?
Alors, c'est plus général que ça, parce que je pense que la victoire d'Emmanuel Macron a totalement modifié le paysage politique en France. Je pense que la droite sociale, c'est un courant qui existe et qui existe depuis longtemps au sein des partis politiques français, comme la droite bonapartiste, comme la droite libérale, comme les différentes gauches qui existent. Mais la victoire de Macron a changé les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces courants de pensée, de droite comme de gauche, paraissent un petit peu obsolètes. Et on a aujourd'hui une force centrale en marche, macroniste, qui va de la droite à la gauche. Finalement, la seule alternative, en tout cas, ce dont on a l'impression, c'était le cas aux dernières élections présidentielles, et a priori, d'après les sondages, ça sera le cas encore la prochaine fois, la seule alternative à Macron, c'est aujourd'hui les extrêmes. Donc ça a complètement modifié le paysage politique. Avant, effectivement, cette victoire de Macron, on se battait pour des idées. Une fois, c'était la droite qui l'emportait, une fois la gauche. Et au sein de la droite ou la gauche, certains courants pouvaient être majoritaires. Tout ça, ça a totalement été modifié.
Arlette a évoqué aussi tout à l'heure Denis Jacquat. C'est votre père en politique, Denis Jacquat ?
Denis Jacquat, c'est au-delà d'un père en politique, quelqu'un qui m'a beaucoup appris, et puis une amitié forte qui s'est tissée au fil des années, une manière de travailler ensemble, d'être toujours sur la même longueur d'onde. Je le dis souvent, on a travaillé 10 ans de manière vraiment très étroite ensemble, et on ne s'est jamais engueulé.
Nous sommes avec Yves Wendling, le consul du Luxembourg. J'allais dire le nouveau consul du Luxembourg, mais vous êtes déjà depuis un moment quand même.
Depuis le 20 novembre.
Depuis le 20 novembre. Donc, nouveau consul du Luxembourg, voilà. On peut quand même dire ça. Et tout de suite, une nouvelle question posée par Jocelyn Lapart.
Alors, avant d'être consul du Luxembourg, vous avez été conseiller municipal d'opposition. Qu'avez-vous retenu de cette expérience?
Moi, j'ai retenu ce que je pense que doit être la politique. C'est-à-dire que j'avais écrit ça au moment où j'ai quitté le conseil municipal. Dans un conseil municipal, la majorité dit que tout ce qu'elle fait est bien. C'est faux. Et l'opposition dit que tout ce que fait la majorité est mal, et c'est faux aussi. Mais, c'est bien qu'il y ait cela dans un débat démocratique, dans une démocratie, parce que ça permet, dans chaque décision, aux citoyens d'avoir l'éclairage sur ce qui est bon dans une décision, et dans ce qui est moins bon dans une décision, ce qui est mauvais. Et ça, de toute façon, quelle que soit la décision qu'on prenne, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. C'est de ça que peut naître d'abord l'opinion que se fait le citoyen, et même d'une certaine manière la vérité. Et donc c'est important qu'il y ait une opposition qui soit forte, qui soit pas seulement constructive, mais simplement qui fasse son travail, qui s'oppose. Et ça permet aux citoyens de se faire une opinion.
Vous avez regretté de quitter le conseil municipal ou finalement vous avez fait un peu le tour de la question?
Alors, j'ai mis, pour être totalement honnête, quand on m'a proposé de postuler pour être consul honoraire du Luxembourg, j'ai hésité pendant quelques mois parce que je devais renoncer à la politique. J'ai fait ce choix, donc après, une fois qu'on a fait le choix, il ne faut pas avoir de regrets, mais...
On ne revient pas en arrière tout le temps.
J'ai aimé cette période quand même.
On va venir un petit peu, on va parler du Luxembourg maintenant, on a parlé un peu de vous pour mieux vous connaître au début, mais on va parler un peu du Luxembourg et de son organisation politique. Jocelyn, qui suit de très près les affaires de ce pays et de ce pays, effectivement, va brûler de vous poser une série de questions.
Pour un auditeur qui ne s'y connaîtrait pas, quelle est la différence politique fondamentale entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg?
Le Grand-Duché de Luxembourg, sur l'organisation politique, c'est un régime parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a des élections législatives. Au terme de ces élections législatives, il y a des partis politiques qui ont un poids, et en fonction de ça, qui accèdent au gouvernement. Et la plupart du temps, quasiment toujours, ça a été des coalitions. C'est un petit peu le modèle de ce qu'on voit en Allemagne. Vous avez des coalitions pendant très très longtemps, quasiment depuis la guerre, qui sont articulées autour de la droite, les chrétiens démocrates, les CSV, qui prenaient des alliés, souvent les libéraux, parfois les socialistes aussi. Et puis il y a eu deux exceptions, c'était Gaston Tende dans les années 70, et puis depuis quelques années, Xavier Bettel, qui lui est un libéral, c'est un peu les partis politiques qu'on retrouve en Allemagne, qui s'est allié avec les socialistes et avec les écologistes.
Ce qui paraît très étonnant, nous Français, on a du mal à comprendre qu'un libéral puisse être allié avec un vert et puis avec le Parti socialiste.
Oui, ça c'est une culture qu'en France on n'a pas du tout, parce que d'abord nous on est sur des scrutins majoritaires essentiellement, et donc on choisit oui ou non, blanc ou noir. Dans des pays comme l'Allemagne ou comme le Luxembourg, il y a beaucoup de élection à la proportionnelle. Il y a une culture de la coalition avec des accords de gouvernement. Le gouvernement qui est là actuellement, où il y a eu un vrai accord qui a été passé quand ils ont accédé au gouvernement. Les socialistes ont obtenu un certain nombre de choses, les écologistes aussi. Et les libéraux ont obtenu d'abord la place de Premier ministre et puis aussi une partie de leur programme.
Oui, on y reviendra, mais ce qui fait qu'il est très difficile de faire changer d'avis au gouvernement pendant la législature, puisque l'accord de coalition est très fort et qu'on ne peut pas en sortir facilement.
Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement... Alors, il y a des choses, évidemment, sur lesquelles ils évoluent. Puis on le voit bien en ce moment, la crise du Covid, elle n'était ni prévue, ni à prévoir. Et donc, il a fallu s'adapter sur des choses comme ça. Mais c'est sûr que dès le départ, il y a un accord de gouvernement qui est très clair.
C'est un consensus mou ou il y a une vrille démocratique avec des tensions, j'exagère, mais des oppositions? Vous parliez tout à l'heure d'une majorité, d'une minorité au conseil municipal. Ça existe?
Oui, bien sûr. Il y a des oppositions fortes. Il y a parfois des oppositions internes qui ne transparaissent pas toujours, mais enfin des arbitrages qui sont faits sur des problèmes. Et puis, une vraie opposition qui est là, avec maintenant aussi l'apparition de partis plus extrémistes qui apparaissent aussi dans le paysage. Oui.
Jocelyn, voulez-vous poser une question sur le fameux consensus luxembourgeois?
Alors justement, ce consensus luxembourgeois, c'est vraiment une question de culture. Y a-t-il une différence entre la culture politique des Français et des Luxembourgeois?
Oui, je pense qu'il y a une vraie différence de culture, mais je pense que la culture politique française, elle est très française. C'est un modèle qui n'existe pas beaucoup ailleurs dans le monde. Alors il a changé, j'ai dit tout à l'heure, avec la victoire de Macron, mais je pense que, on dit souvent que les Français sont des habitants très politisés, et c'est vrai, c'est peut-être moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans, mais en France, on a une vraie culture politique, des vrais débats politiques, très durs, même à l'intérieur d'un parti, vous avez X courants qui ne sont jamais d'accord entre eux. Donc on a une vraie culture et ce n'est pas du tout ce qui existe dans les autres pays européens.
Mais... Il faudrait qu'on vienne, nous, à se rapprocher d'une culture plus parlementaire ou plus de consensus que ça ne l'est aujourd'hui.
Alors le Conseil du Luxembourg n'a pas de conseils à donner aux Français sur la manière de s'organiser dans leur débat démocratique. Mais je ne sais pas s'il faudrait, parce que ça fait partie aussi de l'histoire et de la culture française.
Du général de Gaulle en particulier.
En particulier, mais pas que.
L'extrême droite ne pèse pas au Luxembourg. Comment ça se fait? Il y a très peu d'extrême droite quand même au Luxembourg.
Oui, il y en a très peu. Il y en a un petit peu plus qu'avant. Elle pèse peu, alors sans doute parce que d'un point de vue économique et social, la situation est plutôt bonne et que... C'est vrai que ça joue aussi. Aussi parce que c'est un pays qui est comme... C'est un petit pays, c'est un pays qui a toujours été ouvert. On n'avait pas le choix quand vous êtes un petit pays. D'une part, les étudiants partaient faire leurs études à l'étranger. Il y a toujours eu beaucoup d'immigration, avant avec la sidérurgie, aujourd'hui avec le secteur financier et le secteur industriel. Et donc, cette culture, effectivement, de se mélanger, de parler plusieurs langues, d'être ouvert sur le monde... d'être fondamentalement européen, c'est sans doute ce qui fait que les partis d'extrême droite sont moins présents.
Ouais. Les médias sont assez puissants quand même au Luxembourg, ils jouent un rôle important dans la démocratie luxembourgeoise.
Oui, bien sûr, les médias ont toujours eu un rôle important, avec aussi aujourd'hui une remise en cause du modèle des médias. On le voit avec la gratuité, on le voit avec les difficultés qu'ont les journaux classiques dans leur modèle économique, mais c'est évident que les médias jouent un rôle important, bien sûr.
On va venir... Je sais que vous avez peut-être une certaine forme de devoir des réserves, mais on va quand même parler un peu de la France, quand même. Et puis, de comment vous voyez un petit peu la situation en France, Jocelyn?
Alors, que pensez-vous de la politique menée par Emmanuel Macron et qu'en pensent les Luxembourgeois?
Alors, je pense que dans la relation franco-luxembourgeoise, on dit souvent qu'elle n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Et c'est lié au fait qu'entre Xavier Bettel et Emmanuel Macron, il y a une bonne relation. D'abord, c'est la même génération. Un rajeunissement de la classe politique, un nouveau style, nouvelle méthode. Et donc, il y a effectivement entre les deux une bonne entente. Et j'ajoute que ce qui s'est passé pendant le Covid et pendant le premier confinement, c'est-à-dire que le Luxembourg a pris des malades français dans ses services hospitaliers, a été très très bien perçu à Paris, notamment dans les ministères, alors que souvent, à Paris, effectivement, le Luxembourg, ça ne représente pas grand-chose, mais là, on a pris conscience du Luxembourg.
Cédric Rouillon, nous sommes avec Yves Wendling, le consul du Luxembourg.
Oui, les élections de 2022 en France se préparent déjà dès maintenant. Est-ce que vous voyez un candidat émerger, notamment à droite?
Alors ça, pour l'instant, très honnêtement, je n'en vois pas.
Donc vous faites partie de ceux qui pensent que c'est pratiquement inéluctable qu'il y ait un nouveau duel Macron
Ah ben, je pense que arithmétiquement, l'espace qui existe entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron à droite, et à gauche entre Emmanuel Macron et Mélenchon, son successeur, est extrêmement réduit, que ça paraît difficile d'obtenir une majorité.
Un regard sur Xavier Bertrand, qu'on a aussi souvent associé à cette droite sociale dont on parlait tout à l'heure.
Oui, oui, c'est souvent revendiqué de la droite sociale. Après, il a fait des choses dans sa région, mais enfin, être président de la République, c'est encore un autre challenge.
Le Front National, vous craignez l'émergence, enfin, une arrivée forte du Front National, ou même qu'il puisse venir au pouvoir? Ça vous paraît une hypothèse possible, ça?
Je crois que c'est une hypothèse possible. Je crois qu'on est dans une période de l'histoire extrêmement dangereuse, extrêmement trouble. Je pense que dans tous les pays européens, on voit émerger des partis extrémistes. Je pense que la mondialisation, qui a été une bonne chose pour le monde entier, à l'échelle du monde, parce que ça a permis à des centaines de millions de gens d'accéder à la culture, à l'éducation, à un salaire, a été une très bonne chose. À l'échelle de l'humanité, je pense que évidemment, pour des pays comme l'Europe, avec les pays européens, ça a entraîné évidemment une perte de revenus, on va dire, pour un certain nombre de personnes. Et que finalement, on se retrouve dans nos sociétés avec des sociétés un peu coupées en deux, entre des gens qui profitent pleinement de la mondialisation, qui peuvent voyager, qui peuvent avoir accès à Internet, qui peuvent faire plein de choses beaucoup plus qu'avant, consommer beaucoup plus, et d'autre part, une moitié de la population qui, elle, n'a que les désavantages de la mondialisation, c'est-à-dire les délocalisations, les pertes d'emplois, les usines qui ferment. Et on se rend compte que dans tous les pays européens, on a ces deux parties-là, avec aussi, pour certains, la pression d'avoir une perte d'identité, parce que cette mondialisation, ces échanges, font que les gens ont l'impression de perdre une partie de leur identité. Mais c'est vrai, on le voit en Italie, on le voit en France, on le voit en Espagne, en Angleterre, évidemment.
La politique française, que ce soit les élections ou les grands débats de société qu'on a actuellement, est-ce qu'ils ont une résonance au Luxembourg?
Alors on suit évidemment à Luxembourg toujours un petit peu ce qui se passe en France, parce que nous sommes voisins, nous sommes très proches. Vous savez qu'en ce moment, moi toute la journée, je réponds à des questions de gens qui veulent traverser la frontière, et c'est là où on mesure finalement, du point de vue des individus, des habitants, ce qui est vraiment la relation franco-luxembourgeoise, c'est-à-dire le quotidien, c'est-à-dire ce qui existe depuis des années, loin des grands débats, des prises de position des uns ou des autres, des gens qui ont leurs enfants qui sont à Luxembourg, qui habitent en France, ou inversement, qui veulent traverser la frontière aujourd'hui avec les restrictions qu'a mis la France, et ce qui est tout à fait légitime. Et donc, évidemment, on suit tout ce qui se passe en France, parce que ça... un voisin, et puis il y a 107 000 ou presque 110 000 Français qui tous les jours traversent la frontière pour aller travailler à Luxembourg.
On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Dernière question peut-être dans cette première partie de Cédric.
Oui, vous évoquiez les sociétés coupées en deux, on pense forcément aux gilets jaunes et aux différentes formes que peuvent prendre ça, le mouvement français, finalement, même aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ouais. Est-ce que Luxembourg est totalement hors de ce clivage-là?
Oui, alors il y a toujours, alors vous savez, le Luxembourg, il a réussi quand même, lui, à allier à la fois un côté conservateur, certains diront même un côté terrien, et en même temps un côté cosmopolite avec beaucoup de gens qui viennent, et un côté high-tech avec tout ce qui s'est développé dans le secteur de la finance, de l'informatique, etc. Et au Luxembourg, il y a toujours eu cette dualité, mais qui est très bien vécue, et que chacun, et même à l'intérieur de chaque famille, et même de chaque personne, il y a ces deux parties-là. C'est-à-dire qu'on est à la fois un pays qui peut être conservateur sur un certain nombre de choses, et en même temps qui est dans un monde et qui est ouvert, et comme je disais tout à l'heure, c'est un petit pays. Mais vous savez, par exemple, le mariage pour tous, à Luxembourg, il s'est fait sans aucun débat, quasiment.
Sur consensus.
Voilà.
Un consensus rapide, et puis...
Voilà, ça s'est fait, ça n'a pas posé
sur
de problème.
Sur ces questions liées aux mœurs, ça se passe finalement assez facilement.
Oui, oui.
Retour dans le studio de Politiquement Vôtre avec Yves Wendling, qui est le consul du Luxembourg. Et tout de suite, une première question posée par Arlette Perjean.
Alors, Yves Wendling, vous voilà consul du Luxembourg. Alors, en quoi cette fonction consiste-t-elle? D'abord, comment devient-on consul du Luxembourg? Première chose, on a bien compris qu'il avait fallu que vous démissionniez de vos fonctions au conseil municipal. Et comment êtes-vous arrivé à ce poste de consul du Luxembourg, et en quoi consiste-t-il?
Alors, d'abord, comment est-ce qu'on devient consul du Luxembourg? Je ne sais pas s'il y a un plan type.
Il n'y a pas de plan de carrière.
Il n'y a pas de plan de carrière. J'ai été approché par mon prédécesseur au départ, qui est venu me voir, que je connaissais.
Vous avez la double nationalité ?
Non, moi je suis né au Luxembourg, d'une mère luxembourgeoise. À mon époque, il n'y avait pas de double nationalité, c'est venu après. Moi j'avais à l'époque un droit d'option entre la France et le Luxembourg entre 18 et 25 ans. J'avais choisi de rester français à l'époque, et donc je n'ai pas la double nationalité. Donc à l'époque, donc Jean-Claude Short est venu me voir, il cherchait à prendre sa retraite, il cherchait quelqu'un pour lui succéder, c'est lui qui m'a approché en premier.
C'était votre prédécesseur.
Mon prédécesseur qui a été donc Jean-Claude Short, consul honoraire de Luxembourg pendant 35 ans. Et puis après, effectivement, bah, une fois que j'ai accepté, je suis allé à Luxembourg, j'ai passé mes oraux, comme on dit. Après, il a fallu demander l'autorisation à la France, hein, parce que la France doit accepter la nomination d'un consul comme d'un ambassadeur dans son pays. Et après, ben, ça revient à Luxembourg, ça repart à Paris. Donc, c'est un processus qui met 2 ans. C'est très long. Et puis, alors, le rôle du consul, qu'est-il ? Alors, premièrement, c'est d'abord de porter assistance aux personnes luxembourgeoises qui pourraient avoir des difficultés sur le territoire français du Grand Est, hors Alsace. Ça peut être aussi une aide aux entreprises luxembourgeoises. Et c'est deuxièmement un travail de représentation, puisque je représente le Luxembourg sur ce territoire. Et puis, évidemment, avec la particularité d'être dans une circonscription frontalière, il y a toute la problématique transfrontalière qui est évidemment d'essayer de faire que les gens se parlent, construisent ensemble et arrivent à des solutions partagées.
Il y a du travail, on va en parler. Une question que tout le monde se pose, mais qu'on va vous poser quand même, c'est bien payé ?
C'est pas payé du tout, c'est bénévole.
C'est totalement bénévole. C'est intéressant, c'est important de le savoir quand même. On va passer à la suite des questions qu'on a posées sur la problématique luxembourgeoise avec Jocelyn Lapart.
Le Grand-Duché du Luxembourg fait actuellement beaucoup parler de lui en France et il subit des vives attaques de la part du journal Le Monde sous le terme générique d'Open Lux. Le Monde n'y va pas par quatre chemins. Le Grand-Duché du Luxembourg sera un paradis fiscal. Qu'en pensez-vous ? En tant que consul du Luxembourg.
Alors évidemment, cette enquête Open Lux, qui a été relayée par Le Monde en France, mais par plusieurs pays en Europe, hein, à chaque fois dans des quotidiens différents, ils ont fait énormément de bruit avant de la publier, cette enquête. Quand on regarde l'enquête dans le détail, d'abord, elle s'est appuyée sur l'analyse d'un document public, qu'on appelle le RBE, une sorte de registre de commerce, que le Luxembourg a voulu et a été le premier pays en Europe à rendre public, donc il n'y avait rien à cacher. Ils ont ensuite utilisé ces données pour chercher effectivement s'il y avait des entreprises qui étaient des coquilles vides ou autres. Vous savez, si vous faites la même enquête en France, vous aurez beaucoup de sociétés qui sont des coquilles vides parce qu'elles n'existent plus, parce qu'elles ont servi à un moment mais qu'elles ne servent plus, qui ont été créées pour des projets qui n'ont pas abouti. Voilà. Si on va un peu plus loin dans l'étude de ce document, alors on parle effectivement d'argent sale, mais simplement on n'a quasiment aucun exemple, à part une ou deux personnes qui auraient été condamnées dans un pays, qui auraient un compte. Bon, enfin, on ne peut pas tout contrôler. Je pense que c'est un mauvais procès parce que le Luxembourg est vraiment un pays qui, depuis quelques années, a fait de la lutte contre le blanchiment d'argent une de ses priorités. Et aujourd'hui, ouvrir un compte à Luxembourg, c'est beaucoup plus compliqué que d'ouvrir un compte à Metz.
Alors, il y a toujours un soupçon qui pèse quand même sur le Luxembourg. Le Luxembourg était un pays pauvre il y a 40 ans. On connaît bien le Luxembourg, on le connaissait bien aussi. On y allait boire un petit verre de vin blanc en disant d'ailleurs qu'il n'était pas bon. Nous autres, l'Europe, parce qu'on était très prétentieux toujours à cette époque. Et brusquement, il s'est transformé. Il a quand même utilisé... Est-ce qu'il a utilisé des moyens quand même qui étaient un peu limite-limite ?
Alors, il faut... Non. Alors, historiquement, d'abord, le sud du Luxembourg était assez riche parce qu'il y avait la sidérurgie.
Il l'a perdu.
Exactement comme la région, comme la vallée de la Fensch, la vallée de l'Orne, c'est-à-dire des régions qui étaient très riches à l'époque. On disait qu'à l'époque, à Hayange, c'était plus riche qu'à Metz. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais enfin, effectivement, et le sud du Luxembourg était très riche et le nord était
plus rural,
beaucoup d'agriculture. La première, quand ils ont effectivement vu que la sidérurgie, ça se terminait, que ça n'allait plus être le modèle de demain. Le premier coup de génie du gouvernement luxembourgeois, ça a été les satellites. Ça, peu de gens le savent. À l'époque, pour lancer un satellite, les assurances ne voulaient pas couvrir le risque. Et Jacques Santerre, qui était à l'époque premier ministre luxembourgeois, a dit l'État luxembourgeois garantit et assure le lancement du satellite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie satellite au Luxembourg est une des premières au monde. Et ça, peu de gens le savent. Et puis après, effectivement, il y a eu les banques. Et donc, on a créé une place financière.
Une place financière.
En regroupant, effectivement, des compétences, en regroupant, effectivement, des banques. Et très honnêtement, si on veut être très honnête, il y avait un avantage fiscal à l'époque à aller à Luxembourg. Aujourd'hui, cet avantage fiscal, il est quasiment nul. L'impôt sur les sociétés, c'est 25%, sur les mêmes taux qu'en France. Alors, on nous parle de l'impôt sur les successions, mais enfin, en Italie, il n'y en a pas non plus. Et donc, l'avantage...
L'impôt sur le revenu est élevé au Luxembourg.
L'impôt sur le revenu est élevé au Luxembourg. Il est à peu près comme en France. Simplement, on ne s'en rend pas compte parce qu'il est retenu à la source. Alors, maintenant, en France aussi, mais enfin, jusqu'à maintenant, on ne s'en rendait pas compte parce qu'il était retenu à la source. Mais donc, il n'y a pas aujourd'hui pour les entreprises, et quand vous discutez avec des entreprises, c'est ce qui ressort d'ailleurs dans l'étude d'Open Luxe, d'avantage véritablement fiscal à aller à Luxembourg. Il y a un avantage... parce qu'il y a de l'ingénierie financière, parce qu'il y a des gens qui savent faire, parce qu'il y a des compétences, parce qu'il y a des banques, des avocats, des gens qui savent faire des montages financiers à Luxembourg, parce que c'est une place qui est ouverte sur le monde. Mais je note, d'ailleurs vous avez vu aussi dans Le Monde cette semaine, que les grands gagnants du Brexit, pour ce qui est des places financières, ce n'est pas le Luxembourg, ce sont les Hollandais, qui ont des règles, eux, fiscales, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus avantageuses. Donc le procès qu'on fait à Luxembourg d'être aujourd'hui un paradis fiscal, c'est pas totalement juste, parce que d'un point de vue fiscal, aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'avantages à Luxembourg.
Alors, il y a un débat qui est... On y reviendra tout à l'heure, mais il y a un débat qui revient régulièrement sur le fait, sur la retenue à la source dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a quelques élus, notamment l'ancien maire de Metz, qui évoque l'idée que la retenue à la source est injuste et que finalement, les impôts sont perçus par les Luxembourgeois. Quand les frontaliers vont au Luxembourg, ils payent leurs impôts au Luxembourg, et il estime qu'il devrait y avoir un retour de l'impôt perçu au Luxembourg vers la France pour développer les zones frontalières. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat qui est récurrent, qui revient sans arrêt?
Oui, enfin, effectivement, c'est l'ancien maire de Metz et quelques anciens élus qui véhiculent cette information qui, à mon avis, est erronée. Parce que le seul impôt que le frontalier qui habite en France et qui travaille à Luxembourg, le seul impôt que le frontalier ne paye pas en France, c'est l'impôt sur le revenu. Alors d'abord, l'impôt sur le revenu, il ne va pas aux communes, il va à l'État. Donc même si le frontalier payait ses impôts en France, les communes frontalières n'en toucheraient rien. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'impôt sur le revenu, ça représente 20% des impôts en France, globalement. Mais le travailleur frontalier, il ne paye pas l'impôt sur le revenu, donc il ne paye pas 20%, mais il paye plus de TVA, parce qu'il consomme plus, parce qu'il a plus de salaire, il paye plus de taxes d'habitation, il paye plus d'impôts fonciers, parce qu'il a souvent des appartements ou des maisons un peu plus grandes, et ça, c'est un impôt qui va aux communes. Je prends un exemple un peu, pas totalement désintéressé, mais une commune comme Trieux. Si les gens qui habitent Trieux travaillaient à Audeltiche, comme ils travaillaient à Audeltiche il y a 30 ou 40 ans, au lieu de travailler à Luxembourg, la commune de Trieux n'aurait absolument pas une recette fiscale supplémentaire. Puisque ce qui compte, c'est là où on travaille, où on paye les impôts, là où on loge, on paye d'autres impôts. Donc pour des communes comme Trieux, par exemple, ça ne changerait absolument rien. Et puis en plus, très honnêtement, que serait le Nord Mosellan, cette région-là, moi vous le disais tout à l'heure dans le portrait, mes grands-parents sont de Daltiche, que serait Daltiche aujourd'hui s'il n'y avait pas le Luxembourg? Et j'ajoute encore une troisième chose, c'est que d'un point de vue européen, il a toujours été clair qu'on paye ses impôts là où on travaille. C'est d'ailleurs au nom de ce principe qu'on veut taxer les GAFA depuis quelques années. En disant les GAFA en fait travaillent en France, ils ne doivent pas payer leurs impôts dans leur pays de résidence où ils ont le siège social. Donc, si on veut changer cette règle, il faut la changer pour tout le monde. C'est un faux débat, et malheureusement, qui est effectivement relié, mais aujourd'hui, on n'est plus tellement dans cette logique-là. L'ensemble des élus actuellement est conscient qu'il ne faut pas avoir de rétrocession fiscale, qu'il faut des projets de co-développement, que s'il n'y avait pas le Luxembourg aujourd'hui, les jeunes Messins, les jeunes Mosellans, pas s'ils resteraient encore en Moselle ou en Lorraine et s'ils n'iraient pas vivre ailleurs.
On va un jeune Mosellan qui va peut-être nous dire, donner son point de vue ou poser une question par rapport à ça.
Alors justement, vous avez évoqué les satellites, les banques, les travailleurs transfrontaliers. Ils jouent tous une place dans l'économie du Luxembourg. Comment vous la caractérisez, cette économie? Elle se base maintenant sur les services ou il y a encore une industrie au Luxembourg?
Alors, il y a encore une industrie, parce qu'il y a encore l'industrie sidérurgique qui est encore présente, même si effectivement que cela. il y a effectivement d'autres industries qui existent. Il y a un secteur de la construction du bâtiment qui est évidemment très, très important à Luxembourg. Et puis, il y a toute une économie des services. Alors, c'est vrai que le problème, c'est la maîtrise du foncier qui fait que pour développer de nouvelles industries, ça paraît compliqué parce qu'on manque de place à Luxembourg. Mais il reste encore cette part, effectivement, d'industrie à Luxembourg. Ce n'est pas que une industrie financière. Les services, fallait... Les travailleurs dans le domaine de la finance à Luxembourg, c'est 12%. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup.
C'est pas la totalité, c'est pas voilà. Ça n'est pas un pays composé que de banques.
C'est sûr que c'est eux qui tirent un petit peu le reste de l'économie en partie. C'est vrai que si vous comptez, vous avez 12% de gens qui travaillent dans les banques, mais vous avez les restaurants qui sont autour, les voitures, enfin tous ces services qui sont emplois induits.
Alors, il y a un débat qui est très vif au Luxembourg, que vous connaissez évidemment très bien, c'est le Luxembourg veut gagner des habitants. Ils sont 650 000 à peu près aujourd'hui. Et il y a un débat sur il nous faut de plus en plus d'habitants et peut-être monter même, certains disent, jusqu'à 1 million. Est-ce que ça vous paraît possible, ça?
C'est-à-dire que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est forcément une volonté des Luxembourgeois, mais en tous les cas, ce sont des projections.
C'est ce qui se passe.
C'est des projections qui existent. Et la population, moi, quand j'étais jeune, tout à l'heure, il y avait 365 000 habitants à Luxembourg.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui,
c'était la Meuse.
Voilà. Aujourd'hui, on est à 650 000. Et effectivement, on a des projections vers 1 million.
Il y a un débat autour de ça au Luxembourg. Il y a des pour, des contre.
Oui, il y a un débat sur l'immobilier, parce que l'immobilier est extrêmement cher à Luxembourg. Ça devient compliqué pour les jeunes luxembourgeois de se loger. Certains, d'ailleurs, viennent vivre en France ou en Allemagne ou en Belgique. Donc ça, le problème de l'immobilier, de la maîtrise du foncier, du prix du foncier, ça, c'est un débat qu'on commence à voir à Luxembourg. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant construire plus haut si on n'a pas la maîtrise du foncier? Est-ce qu'il faut obliger certains libérés du foncier? Ça, c'est un vrai débat qui existe à Luxembourg.
Nous sommes avec Yves Wendling, le consul de Luxembourg, et une nouvelle question vous est posée, cher Yves Wendling, par Cédric Rouillon.
Oui, vous évoquiez la crise sanitaire qui a peut-être renforcé finalement les liens entre les deux pays. Est-ce qu'il y a des méthodologies de gestion de crise qui ont été très différentes d'un pays à l'autre?
Il y a eu un petit peu au départ, c'est-à-dire que le Luxembourg a, mais c'est toujours compliqué dans ces affaires-là, a peut-être un peu moins fermé, on va dire, de manière générale, hein, confiné ou des restrictions qu'en France.
Qu'est-ce qui est pareil actuellement au Luxembourg, entre le Luxembourg et la France? Qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui n'est pas pareil? Par exemple, les Luxembourgeois, qu'est-ce qu'ils ont fermé? Qu'est-ce qui est fermé au Luxembourg? Qu'est-ce qui est ouvert? La France, on
connaît. Alors, mieux, mais... actuellement, ce qui est fermé à Luxembourg, ce sont les restaurants et les café.
Comme chez nous
en France. Il y a un couvre-feu.
Plus tardif. 21h.
Voilà, c'est ça. Mais il y a effectivement, après, sur le reste, il y a une liberté de circulation. Ce qui est différent, c'est que il n'y a pas, aujourd'hui en France, si vous voulez rentrer en France, il faut avoir un test PCR négatif. Ce n'est pas le cas à Luxembourg. Luxembourg a toujours souhaité que les frontières restent ouvertes. Et donc, ça, il y a une liberté de circulation. Les écoles ont fermé à Luxembourg, une semaine en avance par rapport aux vacances scolaires.
La différence, là aussi, de nous, là, on a fermé un peu plus vite. Monsieur le consul, moi, si je veux aller au Luxembourg sans avoir d'activité professionnelle, je peux y aller?
Alors, si vous habitez à moins de 30 km de la frontière, vous pouvez aller à Luxembourg sans aucune difficulté.
Mais par contre, si j'habite à Metz et que j'ai aucune...
Si vous allez à Metz et que vous allez à Luxembourg, ça ne posera aucun problème pour aller à Luxembourg. Mais par contre, quand vous voudrez rentrer en France, là, vous devrez justifier d'un test PCR négatif de moins de 72 heures.
Que j'aurais dû faire en France ou
en Luxembourg. En France ou Luxembourg, mais en tous les cas, la police française peut vous arrêter une fois que vous avez passé la frontière.
Il y a une question qui... Un phénomène que notre ami Thierry Georges voit toujours avec beaucoup d'intérêt, c'est que les lieux culturels restent ouverts. Les théâtres, les cinémas aussi?
Oui. Oui, on a... Alors, ça a été un moment, ça a été aussi un petit peu... ça a aussi un petit peu aussi dans le temps. Il y a eu des fermetures de lieux culturels, il y a eu des fermetures de lieux de sport, on essaye de rouvrir, on essaye de... Voilà, et puis on s'adapte un peu à la situation, et je pense que c'est comme en France, c'est-à-dire qu'on regarde les chiffres tous les jours, et on essaye de faire en fonction d'ouvrir ou de fermer en fonction de la baisse ou de la hausse des cas contacts.
Les magasins de détail sont fermés aussi? Les magasins non essentiels?
Non, ceux-là, ils sont ouverts.
Ils sont ouverts. Donc on est assez proche finalement.
Oui, bien sûr.
Assez proche. Jocelyn Lapart.
Au Luxembourg, est-ce qu'on craint une fermeture des frontières au sein de la grande région?
Est-ce que ça pourrait se produire, ça?
Oui, ça s'est produit au premier confinement, puisque la France avait annoncé la fermeture des frontières. Ça a d'ailleurs été vécu comme un vrai choc à Luxembourg, parce que quand on a annoncé la fermeture des frontières, on ne savait pas si les travailleurs frontaliers pourraient passer quand même la frontière.
Ils ont pu passer.
Ils ont pu passer, on l'a su quelques heures après, mais c'est vrai que ça a été vécu, et comme, pour reprendre votre question, est-ce que c'est une crainte? Oui, parce que quand vous avez des hôpitaux à Luxembourg, à Esch-sur-Azel, qui tournent avec 70% de travailleurs frontaliers, si on vous dit on ne vous laisse plus venir les frontaliers, et c'est pour ça que Luxembourg avait tout de suite proposé de loger à l'hôtel les travailleurs frontaliers à Luxembourg, vous ne pouvez plus ouvrir vos hôpitaux, et donc effectivement, une situation compliquée. Puis au-delà de ça, ça a été très traumatisant, parce que le Luxembourg est un pays fondateur de l'Europe, la liberté de circulation, c'est quelque chose qui est très importante, et le fait que dans une crise comme ça, chaque pays se referme un peu sur lui-même, ferme ses frontières, ça a été assez mal vécu aussi.
Vous parliez tout à l'heure de coopération entre la Lorraine et le Luxembourg, autour de quoi on pourrait coopérer?
Ah ben, on coopère, c'est-à-dire qu'on a dégagé déjà, enfin on a un accord entre la France et le Luxembourg pour des projets de co-développement qui a été chiffré à 220 millions d'euros, 110 millions payés par Luxembourg, 110 millions payés par la France, pour ce qui est de la mobilité.
Transport, mobilité.
Vous avez vu qu'à Thionville, on a inauguré un parking relais qui a été cofinancé à 50% par Luxembourg.
Ça, c'est dans le cadre de cet accord-là, oui, qui a deux ans maintenant, je crois, oui, deux, trois
c'est
ans.
C'est ça. Il y a d'autres projets qui sont en attente. Bon, le Covid a aussi un peu retardé les choses, mais enfin, il y a d'autres projets qui sont dans les tiroirs. Il y aura sans doute aussi à discuter sur la formation. Ça sera aussi un grand sujet, comment on peut, de manière intelligente, coopérer dans ce domaine.
La formation des soignants est un sujet qui revient souvent. Notamment, la région Grand Est s'est un peu investie, s'est investie même beaucoup là-dedans. Effectivement, il y a ce paradoxe que les soignants vont travailler au Luxembourg et qu'il y a quelque chose d'un peu frustrant, là, les soignants français.
Alors, le gouvernement français a donné effectivement un certain nombre de places en école d'infirmières pour le CHR de Metz, Thionville, et donc pour augmenter les promotions. Et ça, c'est intéressant. Et je crois que, comme le disait François Grosdidier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans une région où il y a quand même du chômage, où on manque de soignants en France, mais on manque aussi de soignants au Luxembourg, formons des soignants.
Plus on formera, mieux ce sera.
Plus on formera, plus ils trouveront de travail, et mieux ça sera pour tout le monde.
Jocelyn,
vous avez évoqué cette peur lors du premier confinement que les travailleurs frontaliers ne puissent plus passer la frontière. Ouais. Ça a poussé aussi à une coopération sur la question du télétravail.
Alors, le problème du télétravail, c'est encore différent. Vous savez qu'il faut distinguer deux choses. Alors là, on est dans une situation un peu exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on laisse faire beaucoup de choses parce qu'avec la crise du Covid, on n'a pas d'autre choix que de faire beaucoup de télétravail dans des domaines où c'est assez facile, comme dans le domaine bancaire, par exemple, où ça ne pose pas de gros problèmes. Et puis après, il y a la question du télétravail à long terme. Il y a certains qui pensent qu'effectivement, ça serait une manière de résoudre le problème de la mobilité et des transports. Puisque si vous ne travaillez pas un jour par semaine, vous avez 20% de gens en moins sur l'autoroute, si on veut schématiser. Ça pose un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, la convention fiscale entre la France et Luxembourg permet d'avoir 29 jours de télétravail. Vous êtes en France 29 jours dans l'année, ça va. Après, vous tombez sous le régime fiscal français. Et surtout, vous avez une autre barrière, qui est la barrière sociale, qui est au-delà de 25% pour tomber dans le régime social de votre pays d'origine. Ça a été le cas il y a quelques années avec les Belges qui travaillaient à Luxembourg, qui faisaient beaucoup de télétravail, et donc leur contrat avait été requalifié en travailleurs belges. Et donc, ils ont perdu leur droit à la retraite, leur droit aux allocations familiales. Et donc, on ne pourra jamais aller au-delà de 25% de télétravail.
Pour l'instant, on est là. L'heure tourne très vite. Il y a une autre tradition dans notre émission, c'est qu'on termine toujours par la question d'Arlette. Question personnelle d'Arlette.
Oui, alors question
très personnelle.
Question très logique, très courte. Yves Landy, quand vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que vous avez une excellente connaissance du Luxembourg comme de la France, la politique en France, et moi j'aurais aimé que vous nous disiez. Quel est votre idéal en politique? Je vous soupçonne de répondre à la République.
Ouais. Non, mais c'est bien, elle pose toujours des questions.
La République, c'est évidemment une bonne réponse, c'est une très bonne réponse. Encore faut-il qu'on soit d'accord sur ce qu'on met derrière ce mot, parce que c'est un mot qui est beaucoup utilisé, beaucoup dévoyé parfois, mais la République, ça me paraît être effectivement une bonne réponse.
Philippe Séguin, c'était un républicain, c'est l'admiration, oui, pour Philippe Séguin. Vous vous situez assez bien derrière.
Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'était un vrai républicain.
Bah, écoutez, on va finir par cette référence à Philippe Séguin. Merci, Vending, d'avoir répondu à nos questions.
Mais merci à vous.
Très longuement. Je crois qu'on a appris pas mal de choses. Merci, Arlette Perjean, même si elle était très loin dans sa résidence luxueuse du sud-messin, à Cédric Crouillon et à Jocelyn Lapart. qui ont réalisé que participer avec moi à ce nouveau numéro de Politiquement Vôtre, vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site de RCF. Nous nous retrouvons dès jeudi prochain avec un nouvel invité qui sera Patrick Thiel. Passez une bonne semaine à l'écoute de RCF en Lorraine comme ailleurs.